Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 88, Daf Perhet. Bonne écoute et bon limoud.
Il s'agit aussi d'un cas où il y a une marge au-dessus de la seconde page. Forcément donc, c'est ainsi que cet acte de divorce était à l'origine, il n'a pas été coupé au milieu. Alors la Gemara demande, peut-être que le mari a commencé par écrire la première page, donc le début du premier acte de divorce, puis il s'est ravisé, et puis il a continué sur la deuxième page. Dans ce cas où il s'est ravisé, la première partie devient pasoul. On ne peut pas ajouter dessus la suite de l'acte de divorce, il faudra écrire un nouvel acte de divorce. On pense justement qu'il y a lieu de soupçonner que le mari s'est ravisé au milieu, parce qu'il a laissé une marge en bas de la première page. Ma répond, Dekata variat milemata ou muteret milemala. Il est écrit en bas de la première page que tu sois et au début de la seconde page permise. En d'autres termes, il a coupé la phrase au milieu. En général, donc, une personne ne se ravise pas au milieu d'une phrase. S'il s'est ravisé, c'est à la fin d'une phrase. La Gemara demande, Vedilma et Ramele, peut-être que quand même il y a lieu de craindre qu'il s'est ravisé même au milieu d'une phrase, puisque finalement nous voyons qu'il a laissé une marge à la fin de la première page. Apparemment, donc, il a recommencé à nouveau par la suite. Magma répond, Kulehai lochai shinan. On ne craint pas tellement. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'un cas où la phrase a été coupée au milieu, le début de la première page a été écrite à la fin de la première page, et la suite de cette phrase a été écrite au début de la seconde page, on ne craindra pas qu'il s'est ravisé au milieu et qu'il a repris par la suite. Cet acte de divorce, donc, sera kasher. Ravashi amar. Ravashi dit qu'il s'agit d'un cas où il n'y a pas de marge. Il n'y a donc pas lieu de craindre que le mari s'est ravisé au milieu puis a poursuivi l'écriture du guet par la suite, parce que rien ne nous laisse penser que un arrêt a eu lieu. C'est vraiment la raison pour laquelle nous ne craignons pas que cet acte de divorce provienne de deux actes de divorce différents, parce que Dieu dit Abé, Matarta de Mgilta. On voit sur ce parchemin qu'il n'a jamais été coupé. C'est-à-dire, quand le parchemin est travaillé, on y attache des pierres à plusieurs endroits pour l'étirer. Si nous voyons encore les restes de ces étirements sur le parchemin, nous pouvons donc être persuadés qu'il n'a jamais été coupé. Donc cet acte de divorce a été écrit par une personne et ne provient pas de deux actes de divorce différents. Par conséquent, donc, cet acte de divorce sera kasher. Nous avons fini ici le shiur de Gittin d'Av Pesahim. Nous commençons le shiur de Gittin d'Av Perhet à la cinquième ligne du haut de la page, aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Chatmu edim berosh adaf » etc. Si les témoins ont signé en haut de la page ou bien sur les côtés dans la marge, l'acte de divorce sera pasoul. La Gemara demande « Eni, ce n'est pas vrai ?»« Beha Rav chatimin atzad » Voici que Rav avait l'habitude de signer les documents sur le côté dans la marge. Nous voyons donc bien qu'une signature dans la marge est valable. La Gemara répond « Hatam beshegago klapektav » Dans le cas de la signature de Rav, il s'agit où le haut de la signature se trouve en direction de l'écriture. Forcément donc, c'est sur ce qui a été écrit dans ce document qu'a été apposée cette signature. Par contre, le cas où la signature n'est pas valable, c'est dans le cas où le haut de la signature est vers l'extérieur. Il y a lieu de craindre donc que la signature a été apposée sur un autre document, et puis ce document a été coupé. C'est pour cela que cette signature n'est pas valable. La Gemara demande, « Elaha de katane hikiv rosho shelze betzad rosho shelze » Dans le cas où les hauts de deux actes de divorce ont été juxtaposés, Ve'edim ba'emtsa, et les témoins ont signé entre ces deux actes de divorce, Shneim psulim. La Mishnah dit là-dessus que les deux sont pas soul. Alors pourquoi nous disons cela? Ve'lerze heminayu klapertav. On n'a qu'à voir laquelle des signatures, le haut de quelle signature est en direction de l'écriture, puisque dans ce cas, la signature sera valable, puisqu'il est évident que cette signature a été faite sur le document supérieur. Velit kasher, et que cet acte de divorce soit kasher. Magma répond, Hatam deramele ke ibra. Dans la Mishnah, il s'agit d'un cas où la signature a été signée en forme de verrou, c'est-à-dire en travers. Cette signature, donc, n'a été apposée sur aucun de ces actes de divorce. Magma demande, Yach, ici c'est ainsi, Sefa de Katane, dans la fin de la Mishnah où il a été enseigné, Rosho shelze betzad sofo shelze. Dans le cas où le haut du deuxième acte de divorce était juxtaposé à la fin de l'acte de divorce supérieur, Vaedim Baemtsa, et les témoins ont signé entre les deux, et Chaedim Nikrim Besofo. L'acte de divorce dont les témoins peuvent être lus à la suite de celui-ci, kasher, celui-ci sera kasher. Veid Ramek et Ibra, et s'il s'agit d'un cas où les signatures ont été signées de travers, Lav Behadeh Haimikre, Velav Behadeh Haimikre, la signature de ces témoins ne peut être lue ni avec l'un des actes de divorce, ni avec le second. Les deux actes de divorce, donc, ne devraient pas être valables. Et là, la Gemara se ravise et dit, Rav Bediskea Bachatim. Quand on parle de la signature de Rav sur la marge, il s'agit d'une signature sur un document, d'une invitation à se présenter devant le tribunal. Il ne s'agit pas donc d'un document légal, même la signature sur le côté sera valable. Par contre, quand il s'agit d'un document comme un acte de divorce, il faudra que la signature soit à la suite de ce document, sur le côté dans la marge, ou bien au-dessus, cette signature ne sera pas acceptée. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Get shekatvo ivrit » etc. Un acte de divorce qui a été écrit en hébreu et les témoins ont signé en grec, etc. « Ktav sofer ve'ed » ou bien l'écriture du scribe et la signature d'un témoin « kasher » ce sera « kasher » c'est-à-dire sont suffisants pour que l'acte de divorce soit valable. « Amar Rabbi Irmiya » Rabbi Irmiya dit là-dessus « Khatam sofer shaninu » La Mishnah nous parle d'un cas où nous avons la signature du scribe et la signature d'un autre témoin. Et c'est pour cela donc que nous avons finalement deux signatures et que l'acte de divorce sera kasher. Amar Rav Frisda dit là-dessus, Haman et Rabbi Yossi, l'auteur de cette Mishnah est Rabbi Yossi, qui dit qu'un ordre de mission orale ne peut pas être retransmis. Il n'y a donc pas lieu de craindre que le scribe ait signé sans l'ordre direct du mari. Par contre, selon Rabbi Meir, qui dit qu'un ordre de mission orale peut être transmis, il y a lieu de craindre que le mari a ordonné à deux témoins de signer sur l'acte de divorce, et pour ne pas faire honte au scribe, ils lui ont demandé de signer, donc contre la volonté du mari. Dans ce cas, l'acte de divorce serait pas soule. C'est pour cela donc que la Mishnah nous enseigne que la signature du scribe sera acceptée selon l'opinion de Rabbi aussi. Hayi ktuva chatanim de Atia le kame de Rabbi Avahu. Il y a une ktuva d'un chatan qui a été présenté devant Rabbi Avahu. De Hava de Avu Yadele le Tofsa ou le Khatimat Yada de Khatsade. Et on reconnaissait l'écriture du scribe et la signature d'un des témoins. On ne reconnaissait pas la signature du second témoin. Savar l'Archura, Rabbi Avahu, a pensé accepter cette ktuva et de l'authentifier. Amar le Rabbi Irmiya dit là-dessus, Khatam Sofer Shaninu. Quand la Mishnah nous parle de l'écriture du scribe, en fait la Mishnah nous parle de la signature du scribe. L'écriture seule n'est pas considérée comme une signature. Cependant, nous avons vu plus haut d'Afpeva Vamudbet que Shmuel interprétait la Mishnah que c'est effectivement l'écriture du scribe qui sera considérée comme une signature. Il s'agit d'un cas où le scribe est compétent, il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il se soit trompé ou qu'il écrit l'acte de divorce sans l'ordre du mari. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Katav chanichato vechanichata kasher » Si le mari, à la place d'écrire le nom de son père ou le nom du père de sa femme, il a écrit le nom d'un aïeul qui était employé comme surnom. L'acte de divorce sera kasher, parce que finalement on peut reconnaître qu'il s'agit justement de cette personne. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Chanichat avot begitin, le surnom provenant d'un aïeul, peut être employé dans un acte de divorce ad asaradorot, jusqu'à 10 générations. C'est-à-dire, le nom d'un aïeul 10 générations plus haut peut être considéré encore comme étant le père de cette personne, et nous pouvons reconnaître cette personne. Par contre, s'il emploie le nom d'un aïeul de plus de 10 générations auparavant, les gens auront oublié que le nom de cet aïeul a un rapport avec cette personne. Par conséquent, donc, il n'a pas écrit correctement son nom, le guet sera pas soule. Ici, comme le précise le Ran, il ne s'agit pas d'un nom de famille employé couramment. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shlosha Dorot Kacher, s'il employait le nom d'un aïeul de jusqu'à 3 générations à la place du nom de son père, l'acte de divorce sera kasher mikan ve'elach, mais à partir de là, c'est-à-dire s'il emploie le nom d'un aïeul de plus de 3 générations plus haut, pasoul, l'acte de divorce sera pasoul, parce que les gens auront déjà oublié que le nom de cet aïeul a un rapport avec cette personne. La Gemara demande keman azla hadamar Rabbi Hanina, selon laquelle des opinions va cet enseignement de Rabbi Hanina, qui dit comme suit, katav chadichat avot begitin, celui qui emploie le surnom d'un aïeul dans un acte de divorce, ad shlosha dorot, jusque 3 générations. Dans ce cas, l'acte de divorce sera kasher. La Gemara demande donc keman, selon laquelle des opinions va cet enseignement de Rabbi Hanina. La Gemara répond, Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rav Huna, Maïkra, de quel pasouk peut-on apprendre que jusque trois générations, on se rappelle encore le nom de l'aïeul? Plus que cela, on ne se rappelle plus le nom de l'aïeul. On ne pourra donc plus déterminer qu'il s'agit de cette personne en question. L'agma répond, nous l'apprenons du pasouk dans Dvarim Dalet. Le pasouk dit, Kitolit Banim Uvne Banim, quand tu engendreras des enfants et des petits-enfants, Venoshantem Baaretz. Et vous serez considérés comme anciens dans la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire donc au bout de trois générations, les gens ont oublié leur nouvelle installation dans Eretz Israël. Ils sont considérés comme les anciens du pays. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Lo Harba Eretz Israël, Ad She'avdu Ba Shiva Batedinim Avodazara. La terre d'Eretz Israël n'a pas été détruite jusqu'à ce que sept tribunaux, c'est-à-dire sept familles, ont commis l'idolâtrie. Il s'agit de familles de rois, Ve'eluhen, et voici le nom de ces sept familles, Yerobam ben Nevat, Ubaasha ben Achia, Ve'achav ben Omri, Ve'yehu ben Nimshi, Upekach ben Remaliaou, Umenachem ben Gadi, Ve'oshia ben Ala. Il s'agit donc des sept rois dont le règne a duré dans le royaume d'Israël et qui ont tous commis l'idolâtrie. Au bout de ces sept royaumes, la terre d'Eretz Israël a été détruite. Chez Nehemar, comme nous le voyons dans le pasouk dans Yirmiya Tetvav, le pasouk dit Umlela Yoledet Hashiva a été frappée, celle qui a eu cet enfant, Nafra Nafsha, elle a été affligée, Baashimsha Boodyomam, son soleil s'est couché en pleine journée, Bosha Vechafera, elle a été couverte de honte et de confusion. Amar Rabbi Ami, Maïkra, de quel pasouk sait-on, comme l'explique le Maharshal, que c'est à cause de l'idolâtrie que la terre d'Eretz Israël a été détruite? Alors, Rabbi Ami a répondu, c'est justement de ce pasouk dans Dvarim Dalet qui dit Kitolit Banim ou Vne Banim, quand tu engendreras des enfants et des petits-enfants, etc. Dans ce paragraphe, nous voyons qu'à cause de l'idolâtrie, la terre d'Eretz Israël sera détruite. Amar le Rav Kahana ve Ravasi le Rav. Il a été écrit au sujet de Hoshea ben Ala dans Melachim Bet Yudzaim Vayas Hara ben Hashem, et il a fait le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Rak lo kemalchei Israël. Seulement, il n'a pas fait autant de mal que les autres rois d'Israël qui l'ont précédé. Urtiv, et le pasouk dit par la suite, Alav ala Shalmaneser. Sur lui est monté Shalmaneser pour l'amener en exil. Alors la question se pose, s'il n'a pas fait autant de mal que les rois qui l'ont précédé, pourquoi a-t-il mérité l'exil? Amar Lehu, Rav leur a répondu, Otam Pardasiot, Shoshiv Yerovam Aladrachim, ces gardiens que Yerovam a installés sur les chemins de la terre d'Israël, de son royaume donc, Kedesh Lo Yalou Israël la Regel, pour que les Bnei Israël ne montent pas en pèlerinage pendant les fêtes à la ville de Yerushalayim, au Bet Amikdash, Bah Hoshea Bitlam, Hoshea Ben Ala, les a annulés. Et quand même, les Bnei Israël ne sont pas montés en pèlerinage à l'occasion des fêtes au Bet Amikdash. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu a dit là-dessus, Otam Shanim, Shelo Alou Israël Regel, puisque pendant ces années, les Bnei Israël ne sont pas montés en pèlerinage à l'occasion des fêtes au Bet Amikdash, Yelchou Bashevi, ils seront emmenés en exil. Amar Rav Chisda, Amar Marukva, Ve'amrela, Amar Rav Chisda, Amar Rabbi Yirmiya, Darash Marimar. Marimar a enseigné publiquement pour interpréter le pasouk suivant. Maïdirtiv, qu'a voulu dire le pasouk dans Daniel Tête? Le pasouk dit Vaishkod Hashem al Hara'a, que Jbohu a dépêché le malheur, Vaivieha alenu, et l'a emmené sur nous, qui tzadik Hashem Elokenu, parce que Jbohu est juste. Alors la question se pose, Mishum de tzadik Hashem Elokenu, parce que Jbohu est juste, Vaishkod Hashem al Hara'a, Vaivieha alenu, il a dépêché le malheur pour l'emmener sur nous. Et là, c'est pour cela que Maremar a interprété de la manière suivante. Tzedaka asa Kadosh Baruch Hu im Israël. Kadosh Baruch Hu a fait une bonté avec le Klal Israël. Shehegla Galut Tzidkia. Parce qu'il a emmené Tzidkia et le reste de Bnei Israël qui restait en Eretz Israël à l'occasion de la destruction de Beit HaMikdash en exil. Va'adain Galut Yochonia Kaimet. Alors que l'exil de Yochonia qui a été 11 ans plus tôt, existaient encore, c'est-à-dire ceux qui ont été emmenés en exil, existaient encore. Dirtiv Be Galut Yechonia, parce qu'à propos de l'exil, de la période de Yechonia, il a été écrit dans Mlachim Bet Kavdalet, où sont énumérés ceux qui ont été emmenés en exil. Alors le pasouk dit, Hecharash Ve'amazger Elef, les artisans, donc menuisiers, et les serruriers, il y en avait 1000. La Gemara interprète, puisque finalement nous parlons de guerriers ou de ces artisans ou ces serruriers n'ont rien à voir avec cet exil. La Gemara interprète, Charash, Beshebesha'a, Shepotrim, Nassu, Akol Kecheshim. Le Charash fait allusion aux sages qui possédaient tellement la sagesse de la Torah que quand ils ouvraient la bouche, tout le monde devenait sourd-muet. Ils écoutaient ce qu'ils disaient, ils n'avaient rien à dire. Masguer, cela fait allusion aux sages qui van chez Sogrim, Shuvenam Potrim, qui connaissaient tellement les lois de la Torah que quand ils fermaient leur bouche parce qu'ils ne savaient pas répondre à une question, plus personne n'avait rien à dire. En d'autres termes, personne ne pouvait répondre cette question à leur place. Vekama, et combien y en avait-il? Elef, il y en avait 1000. En d'autres termes, donc les sages ont été emmenés en exil avec Yochonia, donc 11 ans avant la destruction de Beth Amikdash. Akosh Baruch Hu a engagé le deuxième exil rapidement, alors que ces sages étaient encore en vie, pour qu'ils enseignent aux nouveaux exilés la Torah. Oula Amar, Oula dit, c'est cela la bonté qu'Akosh Baruch Hu a fait, Sheikdim, Shteshanim, Leveno Shantem. C'est-à-dire, la valeur numérique de Veno Shantem est 852. Bon, le Passouk dit que s'il s'était installé en Eretz Israël de manière à vivre donc 852 ans en Eretz Israël, et puis ils avaient commis l'idolâtrie, tout le clan d'Israël aurait été détruit. HaKadosh Baruch Hu a devancé le malheur donc de 2 ans, et au bout de 850 ans, il les a exilés de la terre d'Israël. Ainsi donc, tout le clan d'Israël n'a pas été détruit, puisque finalement ils ont été exilés avant qu'ils aient habité en Eretz Israël, 852 ans.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Pechet Amud Bet. Amar Rav Acha Bar Yaakov, Shma Mina, nous pouvons déduire de là que Mehera Demare Alma, le terme de rapide pour HaKadosh Baruch Hu, Tmane Mea Bechamishin, ou Tartehu, c'est 852 ans. C'est-à-dire, le Passouk dit, si vous restez longtemps en Eretz Israël et vous commettez l'idolâtrie, sachez-le que Kiavod Tovedun Maher, vous serez détruit rapidement. Nous comprenons de là que rapidement, cela veut dire au bout de 852 ans. Nouvelle Mishnah, Get Meuse Beisrael, un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal Israël, Kacher, celui-ci sera Kacher, même s'il l'a donné donc cet acte de divorce par contrainte, ou Bovde Kochavim, mais s'il a été obtenu par coercition de Goyim, d'un tribunal Goy, Pasoul, celui-ci sera Pasoul. La Gemara expliquera, ou Bovde Kochavim Chovdimoto, mais si ce sont des Goyim qui le frappent, Veomrimlo, et lui disent, Asse Maché Israël Omrimlecha, ils lui disent, fais ce que le tribunal juif te demande, kacher. Cet acte de divorce sera kacher parce que finalement, c'est par coercition d'un tribunal juif que cet acte de divorce a été obtenu. Alors la Gemara dit là-dessus, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Get Hamuse Beisrael, un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal juif, Kedim, si ce divorce a été exigé en accord avec la loi juive, kacher, cet acte de divorce sera kacher. Par exemple, dans le cas où il n'a pas le droit d'être marié avec cette femme, ou bien dans le cas où il est tombé malade, de manière à ce que la Gemara dans Ktuvot explique que cette personne a l'obligation de divorcer sa femme. Et cela, parce que nous sommes persuadés que même s'il accorde cet acte de divorce sans contrainte, intérieurement, une personne a la volonté d'accomplir les mitzvot. Puisque c'est une mitzvah pour lui de divorcer sa femme, quand finalement il donne son accord de divorcer sa femme, il le fait. Nous considérons qu'il donne pleinement son accord chez l'Okedin, mais par contre, si ce get a été exigé en désaccord avec la loi, pasoul, cet acte de divorce sera pasoul, puisque finalement, il n'y a pas de mitzvah de divorcer sa femme. Il se trouve donc qu'il a divorcé sa femme sous contrainte. Il n'a jamais voulu donner son accord entièrement. Ou possède cependant, ce divorce sera considéré comme un divorce partiel, elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Ou Bovet Kochavim, s'il s'agit d'un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal Goy, Kedin, s'il a été obtenu en accord avec la loi juive, Pasoul, cet acte de divorce sera Pasoul ou Possel, cependant, nous considérons cet acte de divorce comme un divorce partiel, elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen, chez l'O Kedin, mais si cet acte de divorce a été exigé en désaccord avec la loi, à Filurea Hagetenbo, cette femme n'aura même pas l'odeur d'un divorce, c'est-à-dire, elle aura le droit de se marier avec un Kohen. Alors la Gemara demande, Manafshach, que veux-tu dire? I ovde kochavim bene isuyeninhu, si le tribunal goy a le droit de contraindre un ben Israël de divorcer sa femme en accord avec la loi, on devrait dire que l'acte de divorce sera kasher, puisque finalement, intérieurement, comme nous l'avons dit, une personne a la volonté d'accomplir la mitzvot. Si la coercition par un tribunal goy est légitime et acceptée par la Torah, nous pouvons estimer que cette personne était entièrement d'accord de divorcer sa femme, le guet devrait être kasher. Il a béni souyeninu. Et si nous disons que la coercition par le moyen d'un tribunal goy n'est pas légitime selon la Torah, finalement donc, il n'y a pas lieu d'estimer que cette personne a donné pleinement son accord de divorcer sa femme. Mipsal, l'olipsal, on ne devrait même pas dire que cette femme soit considérée comme divorcée partiellement et qu'elle n'ait pas le droit de se marier avec un Kohen. Amar Rav Mesharchia répond là-dessus. Dvar Torah get meuse beovde kochavim kasher. Mina Torah, un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal goy. Si c'est en accord avec la loi de la Torah, cet acte de divorce sera kasher. Et pourquoi a-t-on dit que l'acte de divorce obtenu par contrainte d'un tribunal goy est pasoul? Pour ne pas que n'importe quelle femme aille s'accrocher à un goy de manière à ce qu'il contraigne son mari à la divorcer, ou mafkat atzma miyad bala, et ainsi elle pourra se libérer de l'autorité de son mari. En d'autres termes, même si ce divorce a été exigé justement, mais si elle emploie des moyens illégaux, par exemple donc le tribunal goy, il y a lieu de craindre qu'elle emploie ce moyen aussi dans un cas où ce divorce n'est pas exigé justement. C'est pour cela donc que les chachamim ont annulé ce divorce. Cependant, elle sera considérée divorcée partiellement, elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. La Gemara demande, si c'est ainsi, chez l'Okadin, à Filoura Hagetenbo, si cet acte de divorce a été exigé injustement, est-ce que nous disons que cette femme n'a même pas l'odeur d'un divorce, elle aura le droit de se marier avec un Kohen? Veni ave chez l'Okadin, il faut lire ici selon le bar, Bé Israël, on n'a qu'à considérer ce cas comme le cas d'un divorce exigé injustement et qui a été obtenu sous contrainte d'un tribunal juif. Et on n'a qu'à dire que cette femme soit considérée divorcée partiellement, qu'elle n'ait pas le droit de se marier avec un Kohen, dans les deux cas. Et là, forcément donc, la Gemara se ravise, elle dit, l'interprétation de Rav Mesharchia est une erreur. Et cela, comme nous le verrons par la suite, la coercition par le moyen des tribunaux goy est un moyen illégal. Nous considérons donc ce divorce comme un divorce obtenu sous contrainte d'une manière injuste. Cet acte de divorce donc ne sera pas valable. Cependant, les Chachamim ont décrété que cette femme aura l'interdiction de se marier avec un Kohen. Alors la Gemara demande Vetamamai, pourquoi? La Gemara répond Kedin bekedin d'Israël Michlaf. Un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal goy, alors que le guet a été exigé justement, peut être confondu avec le cas où ce guet a été obtenu par coercition d'un tribunal Israël, quand il s'agit d'un guet exigé justement. Donc si nous permettons à cette femme de se marier avec un Kohen, les gens diront qu'un acte de divorce obtenu par coercition même d'un tribunal juif n'est pas valable. Par contre, chez l'Okedin, Bekedin Israël, l'Omichlaf, on ne pourra pas confondre le cas d'un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal goy, alors que celui-ci a été exigé injustement, avec le cas d'un acte de divorce obtenu par coercition d'un tribunal Israël, alors que celui-ci a été exigé justement. Il n'y a donc pas lieu de décréter que cette femme ait l'interdiction de se marier avec un Kohen. Cependant, si l'acte de divorce a été obtenu par coercition d'un tribunal Israël, alors que le guet a été exigé injustement, les Chachamim ont aussi décrété de l'interdire de se marier avec un Kohen. Abaye Ashkeche, le Rav Yosef, Abaye a rencontré Rav Yosef, il a vu donc que Rav Yosef, Diativ, Vekame Asse Agite, avait recours à la force pour contraindre les maris récalcitrants de divorcer leur femme quand c'était nécessaire. Amarle, Abaye a posé la question suivante à Rav Yosef, Vehaanan et Diototanan, voici que nous sommes considérés comme des simples hommes. C'est-à-dire, pour qu'un tribunal soit considéré compétent, il faut que les juges qui le composent soient licenciés par d'autres juges licenciés. Deuxièmement, cette licence n'est valable qu'en Eretz Israël. Puisque Rav Yosef était en Babel, même s'il avait été licencié, son tribunal n'est pas considéré compétent. Vetania, puis il a été enseigné dans une braïta. Haya Rabbi Tarfon Omer, Kol Makom Shata Motse Aguriot Shelovde Kohavim, partout où tu trouves des assemblées de goyim qui ont formé un tribunal, Afalpi Shedinehem Kedine Israël, même si les jugements qu'ils rendent concordent avec les lois de la Torah, Yata Racha Elizake Klehem, tu n'auras pas le droit d'avoir recours à ce tribunal. Shenemar, parce que le pasuk dit dans Shemot Kafalef, Ve'ele Hamishpatim Asher Tassim Lipnehem, voici les lois que tu posera devant eux. Le pasouk est interprété de la manière suivante. Les litiges devront être présentés devant eux. Il s'agit des 70 anciens. Nous pouvons déduire de ce pasouk que l'ifnehem, ce n'est que devant les 70 anciens qu'un litige pourra être présenté, velo l'ifnehem of de kohadim, et non pas devant un tribunal de goyim. Davar acher, autre interprétation. L'ifnehem, c'est devant les 70 anciens qu'un litige sera présenté, velo l'ifnehem de tot, et non pas devant des juges qui ne sont pas considérés compétents. Selon ce que nous avons un peu plus haut, il se trouve que l'acte de divorce ne devrait pas être valable parce qu'il a été obtenu par coercition d'un tribunal non compétent. À Marley, Rabbi Yosef lui a répondu, il est vrai que notre tribunal n'est pas considéré comme tribunal compétent, cependant, Anan Shlichutayu Kavdinan, nous accomplissions la mission du tribunal licencié d'Eret Israël. En d'autres termes, tout tribunal exerçant ses fonctions à l'extérieur d'Eretz Israël, ou bien tout tribunal non compétent qui a été mandaté par un tribunal compétent, est considéré comme étant l'émissaire du tribunal compétent. Et cela, midé d'ave ha-hodaot ve-alvaot, de la même manière que nous traitons les litiges concernant les aveux et les prêts. La Gemara demande, yach, si c'est ainsi, xelot ve-chabalot nami, on devrait aussi traiter les litiges concernant les vols et les dommages corporels. La Gemara répond, qui avdinan shlichutayu, quand est-ce que nous sommes commissionnés par le tribunal compétent d'Eretz Israël, Bemilta de Shricha, ce n'est que quand il s'agit de choses courantes, Bemilta de l'Oshricha, mais quand il s'agit de litiges concernant des choses non courantes, lo avdinan shlichutayu, nous n'avons pas été mandatés là-dessus. En d'autres termes, nous avons été mandatés pour rendre des jugements concernant des litiges courants et aussi concernant des divorces parce qu'il s'agit de cas d'extrême nécessité. Nous avons fini ici le shiur de Gittin Daf Pechet. Nous commençons le shiur de Gittin Daf Pechet, nous commençons Daf Pechet Amud Bet à la Mishnah en bas de la page. Yatsa Shmah Ba'ir Mekudeshet, si un bruit a couru concernant une femme elle a reçu le Kiddushin, elle a été mariée, Harizu Mekudeshet, on la déclarera mariée, elle n'aura pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre que cette personne. À ce stade, nous comprenons qu'il s'agit d'un cas où un bruit a couru qu'elle va se marier aujourd'hui. Megureshet, si un bruit a couru que cette femme est divorcée, Harizu Megureshet, elle sera déclarée divorcée. Il est vrai que cette femme n'aura pas le droit de se remarier parce que sur un simple bruit, on ne s'appuiera pas pour dire qu'elle est divorcée pour pouvoir se remarier. Cependant, si son mari est Cohen, elle n'aura pas le droit de rester avec lui. Ubilvaj lo yesham amatla, à condition qu'il n'y ait pas d'excuse. C'est-à-dire deux raisons valables pour dire que ces kiddushin ou ce divorce n'a pas pris effet. La Mishnah demande, Ezou Yamatla, quelle est l'excuse? En d'autres termes, dans quel cas nous ne tiendrons pas compte du bruit? La Mishnah répond, Giresh Ishploni et Ishto Altnai. Par exemple, si le bruit a couru qu'une personne a divorcé sa femme, sous condition, nous dirons dans ce cas que cette femme n'a pas été divorcée et c'est pour cela qu'elle est restée avec son mari. Ou bien, Zarakla Kidushia, ça fait Karovla, ça fait Karovlo. Ou bien, si le bruit a couru que la personne en question a lancé les Kidushin, et nous avons un doute si ces Kidushin sont tombés proches d'elle ou proches de lui, Zouyamatla, c'est aussi une excuse. Nous dirons qu'en fait, les Kidushin sont tombés proches de lui, et les Kidushin n'ont pas pris effet. D'ailleurs, ce sera aussi la même loi si c'est à l'inverse. C'est-à-dire, si le bruit a couru qu'elle a été mariée sous condition, ou bien si le mari a lancé l'acte de divorce, et nous ne sommes en doute si celui-ci est tombé proche d'elle ou proche de lui. Alors, l'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit que si un bruit a couru qu'une femme a été divorcée, alors qu'elle était mariée avec un Kohen, nous la déclarerons divorcée. Alors, l'Agma demande, Vasrinan la, Agavra, est-ce que nous l'interdirons sur son mari s'il est resté avec lui? Veha amaravashi vasuk rabashi a dit, Kol kala de batar nisuin, tout bruit qui a couru après le mariage d'une femme, lo chayshinan le, on n'en tiendra pas compte. Pour imposer le divorce, il faudra un témoignage. Donc dans ce cas de cette femme qui avait été mariée, on ne devrait pas accepter ce bruit et l'interdire sur son mari. La Gemara répond, Harikama, c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Yatsa Shma Bayir Mekudeshet, si un bruit a couru concernant cette femme qu'elle a été fiancée ou mariée, Harizum Kudeshet, on la déclarera mariée. Elle n'aura le droit donc de se marier avec aucune autre personne que la personne en question. Par contre, Mekudeshet ou Megureshet, si un bruit a couru qu'elle a été mariée, puis par la suite cette personne l'a divorcée.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.